Il est maintenant midi et demi, temps universel, 13h30, ici à Paris. Afrique Midi, avec vous Nicolas Sieur, bonjour.
Bonjour Charlotte Hydrac, bonjour à toutes et à tous. Le procès de l'opposant guinéen Aliou Ba s'est ouvert ce matin à Conakry. Le président du parti Modèle a été arrêté la semaine dernière. Voix parmi les plus critiques de la junte au pouvoir, il est poursuivi pour offense au chef de l'État. Une situation qui fait réagir la Fondation de l'innovation pour la démocratie dirigée par l'universitaire Achille Bembe. Elle s'inquiète de la répression croissante à l'œuvre en Guinée, mais aussi au Sahel et dans toute la sous-région atlantique. Achille Bembe est notre invité. Le Tchad, dans l'attente des résultats des élections législatives, municipales et locales, premières accusations de fraude de plusieurs partis de l'opposition. Et puis les préparatifs du nouvel an, c'est la tradition, ça va pétarader ce soir à Dakar. Et on commence Afrique Midi en Centrafrique, trois jours après leur qualification historique au Chan en battant le Cameroun 2-1 en terre camerounaise du côté de Bafoussam. Les fauves du Bazoubangui sont rentrés au pays hier soir. Ils ont été accueillis en héros à Bangui, ambiance complètement folle dans les rues de la capitale centrafricaine. Reportage Rolf-Steve Domialeux.
Drapés dans leurs maillots bleus et blancs, couleur fétiche de la sélection centrafricaine, des centaines de personnes sont venues applaudir au son des casseroles et sifflets la victoire de leur équipe. Couverte du drapeau centrafricain, Eunice Assana savoure avec enthousiasme cette qualification historique.
Trop fier, fièrement fier, parce que c'est la première fois et ils ont fait cette qualification lors d'un match à domicile au Cameroun là-bas. Chaque joueur mérite même 1 million, on doit les encourager. Les fauves, je suis fier de vous.
Le bus transportant la délégation a rencontré d'énormes difficultés pour avancer au milieu d'une foule déchaînée. Owen Goningai, l'un des supporters, souhaite à tout prix rendre hommage aux artisans de cette victoire.
Nous allons fêter 2025 avec une si merveilleuse nouvelle. Je dirais qu'il n'y a pas de plus beau cadeau que celui dont les fauves nous ont offert. En tout cas, grand merci à eux. Je voudrais à ce qu'ils puissent nous surprendre en ramenant la coupe à la maison. Ça sera vraiment une grande fierté.
Francis Yadendi, sélectionneur adjoint, est fier de ses poulains.
Nous courons derrière cette qualification il y a très longtemps au niveau des seniors. Donc c'est une grande fierté pour les amoureux du football.
La délégation sera reçue ce mardi au Palais de la Renaissance. Rolf-Steve Domialeux, Bangui, RFI.
En Guinée, le procès de l'opposant Aliou Ba s'est ouvert ce matin à Conakry. Le président du parti Modèle a été arrêté la semaine dernière à la frontière sierra-léonaise alors qu'il se rendait à Freetown. Il est poursuivi pour offense au chef de l'État. Aliou Ba est l'une des voix politiques les plus critiques de la junte du CNRD. Sidi Yansané, il rejette en bloc les accusations portées contre lui.
Oui Nicolas, Aliou Ba est actuellement au tribunal de première instance de Kaloum après une première nuit en détention à la maison centrale. D'après le site d'information Africa Guinée, le général Mamadi Doumbouya, parti civil dans ce dossier, accuse le leader du Modèle d'offense, de diffamation par le biais d'un système informatique, probablement en référence aux nombreuses déclarations d'Aliou Ba sur ses réseaux sociaux. Son parti dénonce une stratégie systématique de répression des voix dissidente, tandis que son avocat qualifie ce procès de purement politique et précise que son client n'a fait que rappeler à la junte l'obligation de respecter ses engagements.
Et parmi ses engagements figurait le retour à l'ordre constitutionnel au plus tard aujourd'hui, ce 31 décembre. Finalement, le délai ne sera pas tenu. Mais le gouvernement, Sidi, s'est déjà engagé à parachever la transition durant la nouvelle année.
En effet, dès mars dernier, le Premier ministre Baori a annoncé sur RFI que 2025 était une bonne période pour couronner la transition. Et il y a 3 mois, en marge du sommet de la francophonie, le ministre des Affaires étrangères, Maurice Onda Kouyaté, avait assuré que toutes les élections en Guinée se tiendront dans l'année qui commence. Mais à date, aucune des 10 étapes du chronogramme ne sont achevées. Seul le recensement administratif d'état civil est en cours et l'élaboration de la nouvelle constitution est toujours bloqué au stade d'avant-projet, et ce malgré l'engagement du président de transition Mamadi Doumbouya de tenir le référendum avant 2025. Donc, sauf changement dans la journée, il n'y aura plus de calendrier officiel pour la transition dès ce soir minuit, et passé ce délai, les partis d'opposition et le mouvement citoyen FNDC ne reconnaîtront plus les autorités transitoires. Ils appellent déjà à manifester à Conakry lundi prochain.
Au Mali, Sakho Djim a été condamné hier à 2 ans de prison, dont 1 an ferme. Figure du paysage politico-médiatique, il était poursuivi pour offense commise publiquement envers un chef d'État étranger et injure par le biais de systèmes d'information. Sur le plateau d'une chaîne de télévision, Joliba TV, il avait mis en doute la crédibilité d'un supposé coup d'État déjoué au Burkina voisin. David Bachey, Sakho Djim est incarcéré depuis le 13 novembre. Il va donc rester en prison.
Oui, il a déjà passé 1 mois et demi derrière les barreaux. Sakho Djim devra donc encore patienter 10 mois et demi avant de sortir de prison. Son tort, avoir estimé que les images de ce que la télévision d'État burkinabé RTB présentait comme un flagrant délit de tentative de coup d'État avaient l'allure d'un montage au sens de mise en scène, même pas professionnel, visant à détourner l'attention de l'opinion des vraies questions. Je pensais que la liberté d'expression était un droit acquis au Mali depuis la révolution de 1991, déplore son avocat. Maître Boubacar Soumaré rappelle qu'aucune insulte ni offense n'a été proférée par Sakho Djim et note que la peine prononcée, 1 an ferme, 1 an avec sursis, est supérieure à la réquisition du parquet, 1 an ferme, ce qui était déjà très lourd, comme ment encore l'avocat. Maître Soumaré exprime sa déception et prévoit de faire appel. On veut le réduire au silence, comme ment un proche d'Sakho Djim, même s'il change souvent d'avis, il dit ce qu'il pense, alors il gêne. L'opposition politique aux autorités maliennes de transition continue d'exiger la libération de nombreux prisonniers d'opinion, condamnés ou détenus sans procès, pour s'être montrés apparemment trop critiques.
Dans le centre du Mali, les habitants de Douenza ont été réveillés tôt ce matin par d'intenses coups de feu. La ville a subi une attaque violente qui a duré moins d'une heure, selon des témoignages locaux. L'armée malienne n'a pas donné suite à nos sollicitations, mais elle aurait réussi à repousser cette attaque. Pas de revendication à ce stade, mais on sait que les djihadistes du Jnim sont notoirement actifs dans la région. Des témoins précisent avoir vu des corps au sol, mais aucun bilan fiable n'a pu être établi à ce stade. 2 jours après les élections législatives municipales et locales, le Tchad, dans l'attente des résultats complets, la vie a repris son cours, mais déjà des partis d'opposition lancent des accusations de fraude contre le MPS, le parti de feu Idriss Déby, qui s'était rangé en ordre de bataille derrière son fils Mahamat, actuel président, Victor Moria.
Ce sont des faits, disent-ils, qui leur sont remontés du terrain. Le RNDT Le Réveil de l'ancien Premier ministre Albert Pahemi Padaké accuse l'actuel parti au pouvoir, le MPS, d'avoir réalisé de nombreuses fraudes le jour du vote. Clément Sianka, porte-parole du RNDT.
Intimidation, fraude, emprisonnement, bureau de vote sans PV. Un peu partout dans le Tchad, on a ce mécanisme qui est mis en place par le MPS pour se soustraire de la volonté du peuple, du vote du peuple, parce qu'ils savent que si ils s'exposent de façon légale, de façon transparente au peuple, le peuple va les sanctionner.
Au MPS, on récuse l'organisation des fraudes et on promet la transparence. Aziz Mahamat Saleh, ministre des Infrastructures et du Désenclavement, est le rapporteur national de la campagne du parti.
Il peut y avoir des situations isolées dans lesquelles il y a eu peut-être du zèle ou il y a eu peut-être des candidats qui auraient mal agi. Ça, c'est partout, pas seulement chez nous. S'il y a une situation où il y a un risque de fraude, le MPS appelle à ce que ce soit annulé dans ces zones-là pour que ce soit repris conformément à la loi.
Lorsque les résultats définitifs seront publiés par l'ANJ, le RNDT annonce déjà vouloir saisir la Cour constitutionnelle et la Cour suprême pour demander des dizaines d'annulations. Victor Moria, N'Djamena, RFI.
Et puis la Ligue tchadienne des droits de l'homme, l'Alliance citoyenne pour les élections au Tchad et l'Observatoire des associations sur les processus électoraux disent ce matin que ces élections ont été entachées de nombreuses irrégularités et fraudes à travers tout le pays. Ces organisations avaient déployé 2000 observateurs. Elles pointent le manque de transparence des élections et estiment que l'ANJ, l'Agence nationale de gestion des élections, peut encore rectifier les irrégularités en annulant un certain nombre de scrutins. Des fêtes sous tension s'annoncent dans l'état de Bénué, au Nigeria. Cette région frontalière du Cameroun est depuis 10 ans le théâtre de violences répétées entre agriculteurs et éleveurs, un conflit qui a fait des centaines de milliers de déplacés. Le jour de Noël, des attaques coordonnées conduites contre plusieurs villages du district de Kwande a fait une 15aine de morts et de nombreux déplacés. En tout, Lisa Fabian, 75 agriculteurs auraient été tués dans cette zone, rien qu'au cours des 5 derniers mois.
Oui, c'est le chiffre avancé par un leader communautaire lors d'une visite des autorités de l'État de Benoué dans ce district meurtri de Kouandé. Plusieurs officiels ont fait le déplacement pour présenter leurs condoléances aux victimes de l'attaque sanglante survenue le jour de Noël. Le 25 décembre, juste après la messe, une dizaine de villages du district de Kouandé ont été attaqués simultanément par des hommes armés. Ceux-ci ont mis le feu aux lieux de culte chrétien et aux bureaux de l'administration locale. La seule école secondaire de la zone a également été saccagée. Au moins 17 villageois auraient été tués, mais il est difficile d'établir un bilan fiable car plusieurs hameaux isolés sont toujours occupés par les assaillants. Cette attaque aurait en outre provoqué la fuite de près de 3000 personnes ces derniers jours. Les chefs de village ont dénoncé un vide sécuritaire dans cette zone. Pourtant, des informations concernant l'attaque à venir avaient été transmises aux autorités selon eux, mais sans qu'aucune mesure ne soit prise. Depuis, le gouvernement de l'État de Benoué a promis des patrouilles près de la frontière avec le Cameroun, mais les hommes qui seront déployés dans ce secteur doivent d'abord passer par une phase d'entraînement.
Au Cameroun, une organisation de la société civile lance à nouveau un appel à la paix pour les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Deux régions toujours endeuillées par la violence pour la 8e année consécutive. Amadou Ntarnte, secrétaire exécutif de cette organisation Conscience africaine.
Parce que nous entendons parler quotidiennement d'enlèvements dans ces deux régions. Il y a deux jours, le kidnapping du magistrat Augustine Changamangwa a fait beaucoup parler parce que c'est un notable. Mais les enlèvements sont pratiquement devenus si courants, c'est devenu la norme. Et la plupart des cas, la plupart des violations des droits humains dans ces deux régions ne sont plus documentées, ne sont plus relayées dans les médias comme avant. Donc nous plaidons à nouveau pour que le gouvernement du Cameroun appelle à un nouveau dialogue inclusif et sincère pour résoudre le conflit en cours. Pour que les Camerounais qui vivent dans cette partie du pays puissent jouir de leurs droits civiques comme les autres. Beaucoup d'habitants ne sont pas inscrits sur les listes électorales ou n'iront pas voter parce qu'ils ont peur. C'est quelque chose d'inacceptable. Nous souhaitons que le gouvernement fasse tout ce qui est en son pouvoir pour qu'avant les élections d'octobre 2025, les deux régions connaissent une paix relative afin que les gens soient libres de sortir voter comme dans les autres parties du Cameroun.
Des propos recueillis par Amélie Tulé.
Afrique Midi sur RFI.
Il est 13h42 à Paris. Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, les préparatifs du réveillon. On se prépare à faire la fête à quelques heures de la fin de cette année 2024. Nous serons au Tchad et au Sénégal. Et puis les sports, retour sur le temps fort de l'année en football. L'incroyable sacre des éléphants de Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations. À quelques heures du réveillon, direction Dakar, au Sénégal, qui dit 31 décembre, dit feu d'artifice et pétard pour passer à la nouvelle année. Une tradition toujours très ancrée dans les habitudes, comme a pu le constater ce matin notre correspondant Wendell Lavina.
Dans le quartier de Ngor, depuis hier, il n'y a pas un rond-point, un bord de route ou une sortie de supérette où les vendeurs de feux d'artifice ne sont pas installés. L'étal d'Admin Dao est un gros sac de sable dans lequel il a planté des fusées qui dépassent pour certaines les 50 cm.
Tout le monde accepte, les parents, les enfants, tout ça. Il y a le festival, il y a le petit, il y a le grand, ça a 60 000, ça a 5 000. Ça a 1000 francs, 200, c'est autorisé pour le fête, il n'y a pas de problème.
Avec ses amis, Assini, 15 ans, a déjà prévu les stocks de pétards pour ce soir. Inimaginable de faire sans.
En fait, moi, sans pétards, moi, je fais de quoi. Le plus souvent, on prend des boules de feu. C'est des longs bâtons et il y a des boules de feu qui sortent. On fait des guerres de pétards partout. Bon, pas dans les maisons, mais partout dans la rue. Et on s'amuse avec les amis.
S'amuser, mais aussi partager cet esprit de fin d'année si particulier, insiste René Paul.
Dès le bas âge, mon papa il m'achetait des feux d'artifice pour les Noëls et la fête de fin d'année notamment. Et j'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec cet esprit. Et c'est un moment qui profite à tout le monde pour renouer les alliances, l'esprit de fraternité. On en profite pour partager ce moment ensemble.
Le tout en respectant les consignes de sécurité pour s'amuser et célébrer le passage à la nouvelle année sans danger. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
Au Tchad à présent, certains iront au culte, d'autres resteront chez eux. Et d'autres encore se sont cotisés pour célébrer le réveillon dans les maquis. C'est le cas de ce chauffeur de mototaxi du 7e arrondissement, Hilaire Laïba, qui passera la soirée avec ses collègues.
À l'approche des fêtes, comme ça, on s'organise. Question de collecter au titre des petites tontines pour essayer d'affronter la fête, quoi. Mais généralement, on choisit le mois de novembre pour collecter. Ce n'est pas obligatoire en tant que tel parce que là, parmi nous également, il y a des amis qui sont aussi des pères d'enfants. Chacun a également ses charges, donc on ne peut pas imposer au moins un prix à quelqu'un. Mais ce qui est important, c'est de ne pas seulement rater le barème de temps mis. Donc chaque dimanche, chacun essaie de donner. Si tu as 5 000, tu donnes, on écrit ton nom. Si tu as 10 000, tu donnes, on écrit ton nom, selon la capacité seulement. On est à un nombre de 6, parce que d'abord, on ne voulait pas un truc qui va renfermer beaucoup de personnes et qui va finir par des désordres. Avec cet argent-là, comme aujourd'hui, c'est la veille de fête, généralement, c'est aujourd'hui que la danse va commencer, quoi. On n'impose rien surtout à quelqu'un. Et l'objectif, c'est en sorte une idée de se faire plaisir d'abord personnellement et partager aussi un bon moment entre amis.
Propos recueillis par Olivier Monodji. Les sports, on revient à présent sur les grands temps forts de l'année qui s'achèvent en football. Comment ne pas se souvenir du sacre des éléphants de Côte d'Ivoire lors de la Coupe d'Afrique des Nations? C'était à domicile en février dernier. Une victoire à l'issue d'un parcours complètement fou. Une quasi-élimination dès les phases de poule. Deux sélectionneurs durant le tournoi et une extase en finale. Sofiane Amazian.
Au coup de sifflet final, difficile de trouver les mots justes pour qualifier le parcours des Ivoiriens dans leur canne, inoubliable. Favoris avant le tournoi, implosion en phase de groupe et le départ de Jean-Louis Gasset juste après le dernier match de poule contre la Guinée équatoriale perdue 4-0, puis l'Union Sacrée. Autour d'un nouvel homme fort émerse Faé jusqu'au sacre, des montagnes russes d'émotions, résumées par Guy Demel, entraîneur adjoint des éléphants.
Il y a des bons moments, il y a des moments un peu plus difficiles, mais en soi c'est un parcours mémorable. C'est comme on dit, la finalité est magnifique, mais le parcours a été incroyable, donc il y a beaucoup de choses que nous gardons.
Tombeurs d'abord des champions en titre sénégalais en huitième de finale, les Ivoiriens ont retrouvé de l'appétit auprès de leur public, le Mali, la RDC, puis le Nigeria en finale battu 2-1 à Ebimpe. L'ouragan ivoirien était lancé, Guy Demel se remémore le jour du sacre, le 11 février dernier.
Le stade a été envahi, la cérémonie de remise de trophée, la parade, et donc tout est un peu irrationnel, tout un peu tellement fort, donc on n'était pas encore en possibilité de pouvoir absorber, réaliser.
La Côte d'Ivoire au 7e ciel pour une 3e étoile, la 4e est dans le viseur au mois de décembre prochain au Maroc pour ne pas redescendre de son nuage.
Il est midi 47 à Abidjan. Charlotte Hydrac, les grands titres de ce mardi 31 décembre.
Les hôpitaux devenus des pièges mortels à Gaza, c'est ce que dit un rapport du Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU aujourd'hui. Il souligne que le système de santé est au bord de l'effondrement total dans le territoire palestinien. Et les justifications d'Israël qui affirme que ces structures sont utilisées par des groupes armés sont vagues, toujours selon ce rapport. En Corée du Sud, un mandat d'arrêt est mis contre le président déchu Yoon Suk-yeol pour le forcer à comparaître devant les enquêteurs sur sa tentative d'imposer la loi martiale au début du mois. Le passage à 2025, les traditionnels vœux des dirigeants. Le président russe Vladimir Poutine a déjà prononcé son message. Il salue les succès de la Russie. Après 25 ans de pouvoir, il n'a fait qu'une vague allusion au conflit en Ukraine. En France, le président Emmanuel Macron, lui, s'exprimera à 20h tout à l'heure après une année très difficile marquée par sa dissolution ratée de l'Assemblée. Alors quel bilan tirer de cette année 2024 qui s'achève en matière de respect des libertés individuelles et publiques? La Fondation de l'innovation pour la démocratie, dirigée par le professeur Achille Mbembe, ne cache pas son inquiétude. Achille Mbembe qui est votre invité, Nicolas Sûr.
Bonjour Achille Mbembe.
Bonjour.
Le 28 décembre, vous vous êtes alarmé dans un communiqué à l'occasion de l'arrestation de l'opposant Aliou Ba, de la situation en Guinée-Conakry. En quoi la situation dans ce pays vous préoccupe-t-elle particulièrement?
Je crois qu'elle est alarmante. Le colonel Doumbouya a pris le pouvoir par la force en 2021. Il a promis à l'époque de rendre le pouvoir aux civils en 2024. Promesse faite au peuple guinéen, en même temps qu'à la CEDEAO. On est à la fin de l'année 2024 et tout indique que cette promesse ne sera pas tenue, alors même que s'ouvre une intense période de répression, tous azimuts, qui s'est traduite cette période par l'arrestation récente de M. Aliou Ba, l'un des principaux leaders de l'opposition guinéenne.
Et également des militants de la société civile Foninke Menge et Mamadou Biloba, dont on est sans nouvelles depuis le mois de juillet.
On est sans nouvelles depuis le mois de juillet. Enlèvement, arrestation arbitraire, détention, pratique de la torture dans certains cas, kidnapping. On avance en Guinée vers une direction assez troublante qui ressemble à s'y méprendre à l'époque bien triste que la Guinée a connue lors du régime sanguinaire, il faut le dire, de Sékou Touré.
La Guinée n'est pas le seul pays concerné. Vous parlez de répression croissante, notamment dans les régimes militaires de toute la sous-région africaine, répression de toute voix dissidente. En matière de respect des droits et libertés, l'année 2024 marque-t-elle pour vous un tournant ou une accélération dans ce domaine?
Je crois que les choses sont à la fois simples et complexes. Elles sont simples dans la mesure où l'espace des libertés fondamentales et publiques, cet espace, il est en train d'être rétréci à la fois dans les régimes militaires sahéliens et les régimes autoritaires de l'Afrique atlantique. Dans ces conditions, le cas de la Guinée en particulier, il faut que le colonel Doumbouya ait le courage de créer les conditions d'un dialogue. Ce dialogue suppose que soient bâtis des compromis pour que, ensemble, le peuple guinéen puisse trouver une issue inclusive à la transition. On ne peut pas trouver cette issue inclusive à la transition si effectivement la stratégie consiste à arrêter, à détenir de façon arbitraire les opposants, à en enlever un certain nombre et à briser en tout cas le peu de légitimité que ce régime détient au regard du peuple guinéen.
Et même diagnostic, même solution préconisée pour les autres pays de la sous-région.
Absolument. L'idée ici, c'est que la démocratie, c'est un peu plus quand même qu'un exercice électoral. Il s'agit au fond de reconstruire toute une société. Et pour reconstruire toute une société, que ce soit au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en Guinée, ou d'ailleurs au Cameroun, au Togo et dans d'autres pays, il faut admettre, si l'objectif est de reconstruire la société, que toutes les voix ont leur importance. Et donc, la démocratie, c'est permettre que, effectivement, la chose publique appartienne au peuple.
Vous parliez du Cameroun, votre pays, l'un des temps forts électoraux de 2025. Ce sera justement la présidentielle au Cameroun, où le président Biya est au pouvoir depuis 1982. Pour le RDPC au pouvoir, il serait naturel que Paul Biya se représente. Vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le président Paul Biya est officiellement âgé d'environ 93 ans. Il est au pouvoir depuis 1982. Il est très difficile de penser qu'il a besoin de 7 années supplémentaires pour accomplir ce qu'il n'aura pas pu accomplir en 43 ans de pouvoir tout à fait absolu. Et donc, il faut revenir au sens commun et disons, ouvrir pour ce pays une époque nouvelle.
La Fondation de l'innovation pour la démocratie que vous dirigez est issue d'une réflexion avec le président français Emmanuel Macron. 2024 a été une année de nouveaux revers pour la France en Afrique. Les militaires français ont notamment dû quitter le Tchad. Pour vous, est-ce que 2024 est l'année où la France aura définitivement perdu l'Afrique?
Non, je ne formulerai pas les choses de cette manière. Je pense que 2024, c'est l'année où il apparaît de façon manifeste aux yeux de tous qu'un cycle historique est arrivé à sa fin. Ce que le président Macron a essayé de faire, c'est d'enclencher un nouveau cycle. Il a essayé de le faire au cours des 7-8 dernières années. On est au milieu du guet. Il y a des tas de choses qui sont en train d'émerger, qui exigent d'être accompagnées, nourries, cultivées. D'autres qui meurent. Je pense que ce moment d'attrition, c'est ainsi que je le caractériserais, nul ne peut en prédire, disons, les débouchés finaux. Mais je pense que la France dispose encore de plusieurs chances en Afrique. La question est de savoir si elle saura les s'en saisir ou non.
Pour finir, Achille Bembe, si je vous demande une raison d'espérer ou un vœu pour 2025, quel serait-il ?
Ben, le vœu, il est le même, que l'Afrique se mette debout sur ses propres jambes et qu'elle contribue au destin de notre monde, monde en pleine fracturation, mais un monde qui est beaucoup plus uni au fond qu'on ne veut bien le croire. De toutes les façons, notre sort, il est désormais commun, notre destin aussi, et c'est à construire ce monde en commun que l'on est appelé.
Merci Achille Mbembe, merci beaucoup. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. En Afrique du Sud, à présent, les réveillons de ce soir vibreront sans aucun doute au rythme de l'amapiano. Cette musique électro née à la fin de l'apartheid connaît aujourd'hui une renommée mondiale. L'une des étoiles montantes du genre s'appelle Msongi. Il n'a que 23 ans, mais déjà il savoure un succès fulgurant. Son dernier clip enregistre pas moins de 6 millions de vues. Il enchaîne les concerts et les collaborations avec les plus grands. Notre correspondant Valentin Hugues a poussé les portes de son studio à Pretoria.
C'est dans un petit studio en face de la chambre que la magie opère.
Je commence avec les accords, ça donne ça. Puis j'ajoute les basses, les percussions, et enfin l'élément principal de l'amapiano, la boucle de batterie. Et puis on mixe le tout. Ce projet, par exemple, c'est une idée que j'ai eue l'autre jour. Alors j'ai pris mon téléphone pour chanter la mélodie. Les gens me prennent pour un fou à faire ça. Puis j'ai couru au studio pour en faire une musique. C'est aussi comme ça que j'ai composé Cola.
Cola, c'est la musique qui a changé sa vie, avec un clip qui dépasse les 6 millions de vues et un nombre incalculable de partages sur les réseaux sociaux. Une musique qui prône le pardon, même envers ceux qui nous ont fait du mal, et l'occasion pour Msongi de diffuser des messages positifs.
Et grâce au succès, je peux enfin faire ce que j'ai toujours voulu faire, aider le plus de gens possible. Avec mon énergie, je crois que je contribue à soigner leurs blessures.
Pour être ce messager, comme il aime se qualifier, et son succès lui en a donné l'opportunité. Une destinée heureuse jusqu'à la manière dont il a rencontré son manager Lucky. Lucky, chanceux en anglais, et ça résume plutôt bien ce moment.
Je lui ai envoyé un message pour qu'il me rejoigne à Pretoria parce que je voulais m'occuper de sa carrière. Et il m'a répondu, mec, je m'installe justement à Pretoria pour mes études de musique. Alors là, je me suis dit, c'est parfait. Voilà comment tout a commencé. J'ai vu qu'il était différent, original, il ne copie personne.
La recette de Msongi pour ne ressembler à personne, c'est justement de mélanger toutes les musiques qu'il a écoutées depuis qu'il est enfant.
Ma musique, c'est tout simplement un grand mélange de toutes mes inspirations. Et ça donne une photo de qui je suis, moi, Msongi.
Ses rêves à présent continuent à toucher un public plus large en mélangeant de plus en plus de langues pour s'exporter un jour à l'international. En attendant, pour le passage à la nouvelle année, le jeune prodige jouera au sud du pays, dans sa province natale. Valentin Hugues, de retour du studio de Msongi à Pretoria, RFI.
Et c'est à Pretoria, au rythme de l'amapiano, que se termine cette dernière édition d'Afrique Midi de 2024, réalisée et préparée avec Laurent Corot, Arthur Bon et Caristan Isseri. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
Et à demain pour la première édition de 2025, Nicolas Sûr. Quant à nous, dans 2 minutes, selon votre zone d'écoute, le journal d'Haïti et des Amériques, ou alors 30 minutes d'infos en full full day ou en portugais. Quoi qu'il en soit, à tout de suite.
Vous portez un projet numérique favorisant l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, la conservation et l'exploitation durable des mers et océans en Afrique francophone?
Participez à la 9e édition du concours Challenge APAfrique avec RFI et France 24 et bénéficiez d'une dotation financière pour le développement de votre projet.
Candidatez dès aujourd'hui jusqu'au 26 janvier 2025 sur appafrique.rfi.fr.
Priorité santé.
Caroline Paré reçoit des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde.
Demain, l'éducation thérapeutique du patient. Pourquoi est-elle particulièrement recommandée en cas de diagnostic de maladie chronique ? Jeudi, la listeria et les salmonelles. Comment se prémunir de ces bactéries ? Quels sont les symptômes qui doivent alerter ?
Priorité santé
avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi, à partir de 9h10 TU sur RFI.
RFI, la sélection du mois.
JP Manova.
On sentait Paris et magique, frérot. J'ai toujours su qu'elle n'était pas. Ouais, je suis toujours dans la zig, frérot. Mais c'est dur de suivre mes pas.
Tu vois, ceci est mon corps, tu te tends jusqu'au dehors.
Shane Potok.
Ceci est mon corps et le plus grand des trésors. Ceci est mon corps, lui et moi ce soir on sort. Même si t'es pas d'accord, c'est mon corps.
RFI Musique.